Auditrice, auditeur, bonjour de Radio Arc-en-Ciel, bien sûr. Vous êtes avec Annick pour Conseil et Démaillage. Conseil et Démaillage, c'est le droit pour tous, je vous le rappelle. Et nous avons Didier à la technique et ainsi que toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel pour vous apporter des nouvelles, vous répondre à vos questions et bien sûr des nouvelles qui vous concernent directement, parfois indirectement, mais c'est comme ça, hein, ça touche quand même l'ensemble des auditeurs, hein, que ce soit des petits salariés aux plus grands directeurs, aux mairies, aux communes, aux départements, régions, enfin bref, toutes les informations que j'ai à vous apporter et qui nous concernent tous. Vous avez la possibilité de nous téléphoner à Radio Arc-en-Ciel au 02 62 41 66 16. Il y a aussi un portable qui a été mis à la disposition de ceux qui n'ont pas la possibilité d'adresser un email au 06 92 67 73 35. Ils adressent un texto ou alors ils appellent, hein. C'est un téléphone portable qui a été mis à votre disposition par Radio Arc-en-Ciel. Donc, je vous réponds, hein, même par texto. Et vous pouvez aussi adresser votre courrier au 18 bis rue Montreuil. Aujourd'hui, auditrice, auditeur, hein, j'ai comme d'habitude un immense plaisir à vous retrouver. Hein. D'ailleurs, je commence à préparer l'émission depuis dès le lundi. Je commence à être un peu avec vous. Et puis, quand j'arrive le matin et j'attends mon heure, je suis fière de vous retrouver, auditrice, auditeur. Et j'ai une pensée à chaque fois lorsque je débute l'émission pour toutes les personnes que je connais, tous ceux qui m'adressent des petits messages d'encouragement et de félicitations entre guillemets pour l'édition, pour l'émission, mais qui concernent bien sûr la radio Arc-en-Ciel en son entier. Voilà, je vais vous donner les points qu'on va aborder aujourd'hui, hein, auditrices, auditeurs. Donc nous avons en premier point la loi de finances qui est bouleversée par le Covid-19. Mais je vous la présenterai, hein, la loi de finances 2021, les principales mesures, vous savez bien. La fois dernière, je vous avais présenté la loi de finances 2020 et c'est là-dedans qu'on retrouve beaucoup de choses qui nous concernent. Parce qu'après, lorsque les gens entendent dans les informations tous les bénéfices qu'ils peuvent avoir ou disons tout ce qui a été mis en place par le gouvernement, ils ne savent pas très bien de quoi il s'agit et comment, quoi, pourquoi ça ne vient pas, tout ça. Donc, je vais donner toutes les nouvelles mesures, que ce soit pour les particuliers, pour les associations, pour les entreprises en particulier, eh bien, je vais vous donner les points de la loi de finances 2021. D'accord? La loi de finances. En deuxième point, la crise sanitaire. La loi de transformation de la fonction publique tombe à pic, c'est-à-dire la loi qui est tombée depuis l'année dernière, souvenez-vous, de transformation de la fonction publique. On a eu un peu du mal à suivre les décrets d'application parce que, ben, il y avait le Covid-19, il y avait le confinement, on ne pouvait plus pas faire la radio, etc. Eh bien, je vais vous dire un petit mot là-dessus. Ensuite, je vais vous faire un petit rattrapage de ce que j'avais dit jeudi dernier concernant le rappel de l'augmentation des salaires des agents officialisés par décret. Ce n'était pas par décret, mais c'est une décision qui a été prise officiellement le 1er septembre, un avenant à l'accord initial pour l'augmentation des gens qui travaillent dans les EHPAD. Mais je vais rectifier ça. Le décret, je ne l'ai pas vu. Hein. Le décret associé, il sera publié, mais je ne l'ai pas encore sous la main. Mais en tout cas, c'est officialisé. En quatrième point, quelle rémunération retenir pour appliquer l'exonération Covid? En cinquième point, nous aurons vos réductions de crédit d'impôt. Vos réductions et crédits d'impôt, comment modifier l'avance qui doit vous être versée en janvier prochain? Après, nous avons en sixième point le réseau 5G. Enfin, la fronde période des troubles des maires sera-t-elle efficace? Les maires qui sont contre le réseau 5G, hein, vous avez entendu parler. Nous aurons en septième point le CDD CESU ou CDI CESU. Quelle est la différence? Chèque emploi service universel, vous savez? Eh bien, le CDD, le chèque emploi service universel, ou le CDI, le chèque emploi service universel, quelle est la différence? Nous allons parler des congés payés parce que j'ai eu pas mal de questions d'auditeurs qui parlent de congés, les patrons qui ne donnent pas de congés, enfin bref, leurs droits. Nous allons parler en neuvième point, l'État encadre les suppressions d'emplois dans la fonction publique hospitalière. Ah là, cette fois, il y a un décret qui a été publié le 3 septembre 2020 et qui précise les dispositifs d'accompagnement. C'est-à-dire, quand les agents qui travaillent dans la fonction publique, dans les hôpitaux, alors, vous connaissez l'hôpital, eh bien, si l'emploi a été supprimé, un fin de contrat et tout ça, eh bien, il y a un décret qui vient, qui précise le dispositif d'accompagnement. Qu'est-ce que ces gens-là ont droit? c'est-à-dire les titulaires ou pas titulaires dont l'emploi a été supprimé dans la fonction publique hospitalière, d'accord? Ou bien fait un contrat, etc. Je vous donnerai les détails. En dixième point, vos réductions et crédits d'impôt, comment modifier l'avance qui doit vous être versée à janvier prochain, je l'ai dit, j'ai répété là. Donc c'était un point que j'avais déjà abordé au début. Ensuite, en onzième point, une ordonnance pour simplifier la lutte contre l'habitat indigne. Jeudi dernier, je n'ai pas eu le temps. Eh bien là, je vais essayer d'arriver au bout et de vous dire un petit peu ce qui se passe pour ce qui concerne l'habitat indigne. Ensuite, nous avons la question des auditeurs, une demande d'aide d'une fidèle auditrice dans un dossier de succession. Quelqu'un qui veut donner sa part dans une succession, je vais dire si vous avez le droit, comment faire, quoi. D'accord? Il y a aussi le temps partiel, le droit au congé payé. Donc, j'ai dit tout à l'heure dans la liste des questions, je vais parler des congés payés. Et puis, un auditeur me dit, pour ce qui concerne le port de masque, ça veut dire quoi? Un open space. Alors, je vais donner l'explication, c'est quoi un open space? Voilà, pour ce qui concerne tous ces points que nous allons aborder aujourd'hui avec vous. J'essaierai d'être le plus condensé possible pour que j'arrive jusqu'au bout. Voilà, auditrice, auditeur, de ce qu'on va parler aujourd'hui. Voilà, nous allons commencer par la loi de finances pour 2021. Je vais vous donner les principales mesures pour les entreprises et après je vais vous donner les principales mesures pour les particuliers. Voilà. Alors, donc, pour ce qui concerne les principales mesures pour les entreprises, le projet de loi de finances pour 2021 est consacré à la relance de l'activité économique et de l'emploi. Hein? Le projet de loi de finances 2021 déploie les crédits du plan de relance de l'économie annoncé le 3 septembre 2020. Ce plan, doté d'un budget de 100 milliards d'euros, est construit autour de trois priorités: l'écologie, la compétitivité et la cohésion. Alors, il y aura la baisse de l'impôt sur les sociétés pour ce qui concerne les entreprises. Le projet de loi de finances pour 2021 confirme la trajectoire de baisse du taux de l'impôt sur les sociétés, l'IS, pour toutes les entreprises avec des trajectoires de baisse différenciées selon leur chiffre d'affaires. En 2021, le taux de l'IS passera à 26,5% pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250 millions d'euros et 27,5% pour les grandes entreprises. En 2022, le taux normal de l'IS sera abaissé à 25% pour l'ensemble des entreprises. Alors, baisse d'impôts de production, des impôts de production. Donc, je ne développe pas tout ça pour les entreprises, ils sont déjà au courant, mais j'annonce un petit peu pour qu'ils aillent aux informations. Le renforcement des fonds propres des entreprises, le soutien à l'export, les aides pour la maîtrise et la diffusion du numérique, la création d'un dispositif d'activité partielle longue durée, c'est-à-dire un dispositif d'activité longue durée pouvant aller jusqu'à 24 mois, est créé pour s'adapter à l'évolution des circonstances économiques et offrir plus de visibilité de moyen terme aux employeurs et aux salariés. Hein? C'est-à-dire l'activité partielle de longue durée entrée en vigueur le 1er juillet 2020 permet une indemnisation à hauteur de 70% du salaire brut jusqu'à 4,5 SMIC, prise en charge à 85% par l'État. Alors, il y a aussi le renforcement du Fonds national pour l'emploi, le FNE. Dans le cadre du plan de relance, le Fonds national pour l'emploi est abondé à hauteur de est abondé afin d'encourager la formation des salariés placés en activité partielle. Des moyens supplémentaires seront consacrés aux jeunes dans la lignée, hein, avec l'objectif de 323 000 jeunes supplémentaires soient formés en compétences attendues sur le marché du travail. Alors, nouvelles aides aussi pour l'embauche. Une aide exceptionnelle pour l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans. L'aide exceptionnelle créée dès la troisième loi de finances rectificative, je vous l'avais déjà annoncé, hein, la troisième loi de finances rectificative avait déjà créé afin de faciliter et relancer l'embauche des jeunes, eh ben, bénéficiera de nouveaux crédits. L'objectif étant de 580 000 contrats bénéficiaires au total, hein, dont environ 100 000 en 2021. Alors, cette nouvelle aide pour l'embauche d'un jeune est accordée aux entreprises qui embauchent un salarié de moins de 26 ans en CDI ou en CDD de 3 mois et plus, pour un salaire jusqu'à 2 fois le SMIC, pour les contrats conclus entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021. Le montant de l'aide est de 4 000 euros maximum sur un an pour un jeune salarié à temps plein. Il y a une aide exceptionnelle pour l'embauche en contrat d'alternance. Eh bien, la loi de finances 2021 poursuit le soutien apporté à l'embauche en contrat d'alternance afin de renforcer cet outil d'intégration dans le monde du travail fortement lié à la conjoncture économique. Cela se traduit par le financement des aides dédiées à l'apprentissage et à la professionnalisation pour la première année du contrat. Hein? Pour rappel, les nouvelles aides pour l'embauche en alternance concernent les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. D'accord? Le montant pouvant aller jusqu'à 8 000 euros et varie selon l'âge de l'alternant. Alors, le jeune qui cherche un emploi, il a la possibilité, par exemple, dans sa lettre de motivation, de faire un petit rappel à son employeur. C'est pas, comment je vais dire, c'est pas anodin. Et de dire, ou bien peut-être dans l'entretien, ou peut-être aller faire la recherche d'emploi et parler justement de cette aide que le gouvernement met en place, qui a déjà mis en place et qui continue à s'améliorer par rapport à la loi de finances 2021. Alors, le projet de loi de finances 2021, pour ce qui concerne les principales mesures pour les particuliers, il y a l'élargissement des bénéficiaires de MaPrimeRénov', hein, il y a la reconduction de bonus écologiques, il y a la création d'un crédit d'impôt pour l'installation de bornes de recharge de véhicules électriques, la simplification des modalités de versement des aides au logement, hein, à compter de 2021. Les aides au logement seront calculées et versées en temps réel. Ben, certains points, je développe parce que ça concerne directement nos auditeurs. Hein. Eh bien, les autres aussi, mais je veux dire ça pourtant, ça touche plus un panel un peu plus large, c'est-à-dire la simplification des modalités de versement des aides au logement à compter de 2021. Les aides au logement seront calculées et versées en temps réel. Concrètement, cela signifie que le bénéfice de ces aides sera évalué sur la base de vos ressources actuelles et non plus le revenu N-2. Cette réforme vise à rendre le versement des allocations logement plus réactif et juste, notamment lors d'une baisse du revenu. Alors, m'explique à Zot ça en créole. Avant là, quand Zot te demande un aide au logement, et te demande à Zot de papiers impôts N-2, c'est-à-dire Zot papier d'impôt de 2 ans d'avant. Eh bien, des fois, le 2 ans d'avance, vous l'avez à l'argent, vous ne te gagnez pas un bon peu remboursement l'aide au logement, eh bien, ça t'est ennuyeux, puisque dans l'année d'en cours en question, eh bien, vous te gagnez un petit peu l'argent. Eh bien, aujourd'hui, il dit plus à août, donne-nous des impôts depuis nana 2 ans, il dit à août, donne-nous des impôts cette année, l'année N, d'accord? Dans l'année, hein, c'est le revenu réel. D'accord? Et là, l'aide au logement sera plus adaptée en réalité avec la situation. Voilà pour ce qui est de la simplification des modalités de versement des aides de logement que je vous avais déjà annoncé il y a un jeudi de ça. Et après, il y a l'amélioration du niveau de vie des étudiants. Ça aussi, ça concerne les étudiants. Je vais développer. Afin de lutter contre la précarité étudiante, la rentrée universitaire a été marquée par la baisse du coût du ticket de restaurant universitaire Crous pour des étudiants boursiers. Il est passé de 3,30 euros à 1 euro. Ce tarif social est maintenu pour l'année universitaire 2021. Ensuite, il y a le renforcement des places d'hébergement d'urgence. Il y a message échangé avec un collègue, le contenu. Bon, mais ça, c'est un autre point, je vais pas rentrer là-dedans. Alors, donc, pour le renforcement des places d'hébergement d'urgence. Alors, pour ce qui concerne le projet de loi de finances 2021, nous avons beaucoup de points. Je vous ai donné les principaux points, mais si vous avez besoin des informations, bien sûr, vous allez sur le site gouvernement, sur le site du gouvernement Finances, ou alors, vous appelez au conseil des maillages sur le portable ou alors vous laissez un texto et je serai toujours là pour vous répondre à vos questions à conseil des maillages et que Radio Arc-en-Ciel a mis à votre disposition. Voilà pour les impôts, le projet de loi de finances 2021. Alors pour ce qui concerne le PLFSS Sécurité sociale, pas de nouveau financement pour la cinquième branche. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 devrait contenir de premières mesures visant à la mise en place d'une cinquième branche de la sécurité sociale consacrée à l'autonomie. Mais le flou demeure autour de son financement. Alors, le gouvernement a dévoilé le 29 septembre les grandes lignes du projet de loi de financement de sécurité sociale. Nous ne sommes plus sur la loi de finances de tout à l'heure. Là, je parle de la loi de finances de sécurité sociale pour 2021, dont la présentation en Conseil des ministres doit avoir lieu le 7 octobre. Conseil des maillages, suis ça pour vous pour ce qui concerne ce plan de loi de financement de sécurité sociale. Ça ne concerne pas souvent nous-mêmes, les auditeurs, directement, mais il y a beaucoup de choses qui nous concernent dans ce projet de loi de finances de sécurité sociale. Alors ça, Conseil des maillages suit pour vous puisque c'est encore en cours, hein, et ça va être présenté le 7 octobre. Bon, donc, conseil des maillages reste au taquet sur toutes ces instances qui se mettent en place et puis qui décident pour nous. Eh bien, conseil des maillages, je suis ça pour vous. Et voilà pour ce qui est de tout ce que je voulais parler sur les lois de finances. Alors voilà le deuxième point, la crise sanitaire. La loi de transformation de la fonction publique tombe à pic d'après des deux revues. Alors justement, la loi de transformation de la fonction publique, depuis qu'elle a été publiée en 2019, eh bien conseiller des maillages, vous avez déjà parlé du projet de loi, ensuite de la loi elle-même, après des décrets d'application. Et aujourd'hui, je devais vous faire part de cette petite observation que j'ai vue, hein, la crise sanitaire, la loi de transformation de la fonction publique tombe à pic. Alors à l'aune de la pandémie, les dispositions de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 semblent donner globalement satisfaction aux agents. C'est ce qui ressort des résultats de l'enquête de deux revues, hein, dont j'ai retiré les estrées, hein, par deux organismes. Alors, d'organismes de presse, je voulais dire. Eh bien, c'est peut-être l'enseignement le plus étonnant de l'enquête menée par ces revues et qui a mené auprès des territoriaux en juin et juillet dernier. Ils disent que lorsque l'on évoque avec eux la loi de transformation de la fonction publique du 6 août, eh bien, près d'un agent sur cinq, 18% ne voit pas de quoi on parle. Alors, si je dis ça, c'est pourquoi? Vous allez dire, ben, qu'est-ce qu'il est en train de me raconter, qui dit machin, l'enquête, cela? Eh bien, c'est pour vous dire que vous voyez bien que un agent sur cinq ne sait pas ce dont on parle de la loi de la transformation de la fonction publique qui les concerne directement. Les agents titulaires, les contractuels de la fonction publique, communes, départements, régions. Eh bien, c'est pour ça, conseiller des maillages, je pense, est bien là pour vous donner les informations, puisque on vous dit tout ce qui se passe dans cette loi, chaque fois qu'il y a des nouveautés, chaque fois qu'il y a des décrets d'application, et vous êtes à même de pouvoir poser des questions ou du moins interroger conseil des maillages sur votre situation, que vous soyez titulaire ou pas. Cette réforme de la fonction publique, que ce soit territoriaux, État et hospitalier d'ailleurs, hein, mais là, ce sont des revues de presse, des revues de presse qui émanent des territoriaux. Donc, ils disent que près d'un agent sur cinq, vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas au courant de ce que dit la loi de transformation de la fonction publique. Mais de temps en temps, je vous dirai un petit point là-dessus. C'est un an après son adoption, hein, ils sont la moitié, 51%, à en avoir juste entendu parler. Et tout de même, 31% savoir précisément de quoi il s'agit. Une méconnaissance qui ne les empêche pas d'en approuver globalement le contenu. Donc, en fait, tous ces agents qui sont au courant de cette loi, les 31% des agents, des gens, des fonctionnaires, eh bien, ils apprécient le contenu, hein, ils approuvent globalement le contenu, mais quand même, il y a quand même une grande majeure partie des employés communaux, départements, régions, communes, des hôpitaux ou de l'État, eh bien, ça concerne tout le monde. Quand on parle de la transformation de la fonction publique, c'est pour tous les agents de la fonction publique. Alors voilà, je voulais quand même vous apporter ce petit mot-là pour vous dire qu'il faut quand même vous intéresser de votre situation parce que conseil et démaillage est là pour vous faire connaître vos droits, pour vous donner les informations ou du moins les plus précises et les plus officielles. Voilà, je vais pas prendre par exemple je prends par exemple des revues, là par exemple on le dit, des statistiques ou bien des enquêtes, là je suis d'accord. Mais par contre, lorsque je fais une synthèse de quelque chose que je vous annonce, je suis obligée d'aller dans les textes même, dans les lois, les décrets, les circulaires, etc., pour que vous soyez au courant des choses concrètes et des choses sûres. C'est pour ça que parfois, pour des auditeurs, auditrices, et je m'en excuse, j'en profite, que le dossier traîne un peu, c'est parce que il faut que j'étudie, il ne faut pas que je fasse une lettre comme ça, et hop, à la volée, je dis pas le droit, etc. Donc, je suis obligée de prendre du temps dans vos dossiers. Voilà pour ce qui est de cette loi de transformation de la fonction publique dont je vous parlerai de temps en temps dans les jeudis ou alors vous êtes là pour me poser des questions d'ailleurs à Conseil des maillages de Radio Arc-en-Ciel. Alors là, j'apporte une petite précision pour ce qui concerne le point 4. Quelle rémunération retenir pour appliquer l'exonération COVID? Ça concerne directement les employeurs. Hein. Les bases à retenir, hein, quelle rémunération à retenir pour appliquer l'exonération COVID? L'exonération, c'est-à-dire exonérer, ça veut dire paye pas. Hein, d'accord? Alors, les bases d'exonération égale base soumission, les règles de rattachement, ce qu'il faut bien analyser, eh bien, c'est pour vous dire qu'il y a une instruction. Numéro DSS 5B SAFSL 2020 du 22 septembre 2020 qui vous donne des explications concernant quelle rémunération retenir pour appliquer l'exonération COVID, hein, l'exonération COVID en 2020. Alors pour gérer tout ça, eh bien n'oubliez pas qu'il y a une instruction qui a été que je viens de vous donner. J'espère que vous avez un stylo à noter quand vous écoutez Conseil des maillages, parce que je vous donne souvent des numéros de téléphone ou des liens ou des références. Eh bien, si vous n'avez pas bien compris, eh bien, Conseil des maillages est à votre disposition, même pour vous envoyer cette brochure. Ensuite, nous avons vos réductions et crédits d'impôt. Comment? Alors, réduction et crédit d'impôt. Comment modifier l'avance qui doit vous être versée par votre employeur? Alors, où c'est que j'ai mis ça pour j'ai des finances, donc je me perds dans mes papiers ce matin, ça va pas le faire, hein. Alors, je vais mettre une petite pause musicale parce que je retrouve plus ma fiche. Oui, c'est vrai. Je retrouvais pas la fiche parce que je l'avais mis en point 10. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que, ah mince, j'ai dit en deux fois, vos réductions et crédits d'impôt, comment modifier l'avance qui doit vous être versée en janvier prochain? Eh bien, si vous avez une aide à domicile, ou bien vous bénéficiez d'un service à la personne, ou bien vous versez des dons ou des cotisations syndicales, des dons, vous savez bien, les dons aux associations. Souvent, je le dis à la radio, mais c'est normal, la radio est une association, donc je ne vais pas répéter tout le temps, hein. Mais si vous versez des dons, vous donnez, faites des dons, ou bien vous payez un syndicat, etc., eh bien, les dépenses engagées vous donnent droit à des réductions et des crédits d'impôt sur le revenu. Ça, vous le savez, je vous l'avais dit. Alors, pour alléger votre budget et vous éviter d'attendre l'été 2021 pour en bénéficier, eh bien, une avance de 60% de vos réductions ou crédits d'impôt récurrents vous sera versée en janvier prochain sur la base des dernières informations connues de l'administration. C'est-à-dire que si vous mettez au courant l'administration des impôts, eh bien, si c'est connu, vous allez avoir vous allez une avance de 60% de vos réductions. Hein? Si vos dépenses ouvrant droit à réduction ou crédit d'impôt sont diminués en 2020 par rapport à 2019, vous pouvez dès à présent réduire cette avance ou même y renoncer complètement si vous n'avez plus du tout de type de dépense. En vous rendant dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr, rubrique Créer mon prélèvement à la source, non, pardon, gérer mon prélèvement à la source, menu, gérer vos avances de réduction et crédit d'impôt. D'accord? Vous allez sur vous savez bien, vous avez la possibilité d'aller réduire ce qu'on retient à la source, hein? Eh bien, vous allez sur impots.gouv.fr et puis vous mettez gérer mon prélèvement à la source et vous allez dans menu, gérer vos avances et réduction et crédit d'impôt. Et vous avez jusqu'au 10 décembre pour modifier l'avance de janvier 2021. Et ainsi, éviter d'avoir à rembourser un éventuel trop-perçu l'été prochain. D'accord? Alors, sans action de votre part, ben, l'avance sera versée mi-janvier 2021 sur le compte bancaire que vous avez déclaré à l'administration fiscale et qui figure dans Gérer mon prélèvement à la source en cas de modification de vos coordonnées bancaires. Pensez à les mettre à jour au plus tôt. N'oubliez pas, quand vous avez donné vos coordonnées bancaires, si jamais ce n'est pas le même compte, etc., n'oubliez pas d'aller mettre à jour d'une part. Et d'autre part, vous avez la possibilité d'aller gérer vos avances. C'est-à-dire, quand vous payez des avances sur vos impôts, vous allez dans votre site, sur votre site. Ça, ceux qui utilisent, ils le savent, hein, mais je dis quand même pour rappel, hein, si vous avez besoin de réduction et que vous avez une modification dans tout ça, eh bien, vous avez la possibilité d'aller les gérer vous-même sur votre site impots.gouv.fr. Voilà, c'est la petite fiche que je cherchais. Bon, alors, je vais vous dire deux ou trois informations à la suite pour que j'arrive au bout. Hein, auditrice, auditeur, aujourd'hui, on dirait que pourtant j'ai la forme, hein, mais je me suis trompée dans mes dossiers. Alors, pour ce qui concerne le réseau 5G, hein, le réseau 5G qu'on parle là, hein, eh bien, les médias sont de plus en plus nombreux à faire entendre leur mécontentement contre le déploiement de la 5G à marche forcée du gouvernement. Mais ont-ils vraiment leur mot à dire à déploiement à l'heure où on débute les enchères pour attribuer les fréquences aux opérateurs Télécom français, des avocats spécialistes du sujet apportent les éléments de réponse. Alors, il y a des maires qui étaient anti-Linky, vous vous souvenez, les anti-Linky, les compteurs EDF Linky, là, ceux qui refusaient l'accueil des migrants, la réforme des rythmes scolaires. Eh bien, désormais, il y a les maires anti-5G, alors prêts à dégainer des arrêtés anti-déploiement de ce réseau nouvelle génération. De plus en plus de maires veulent faire entendre leur voix. Alors ça, c'est pour vous dire un petit peu des informations que je retrouve pour ce qui concerne la 5G, puisqu'il y a des interrogations là-dessus, ce qu'on en pense, nous. Hein, vous savez, nous, on n'est pas trop technique dans le domaine, mais on vous apporte des informations en droit et puis de tout ce qui se passe dans les revues, en tout cas, que je priorise pour vous donner des informations beaucoup plus sûres. Alors, je vais vous dire pour ce qui concerne les agents, les suppressions d'emplois dans la fonction publique hospitalière. Eh bien, l'État encadre les suppressions d'emplois dans la fonction publique hospitalière. Un récent décret prévoit des mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emplois dans la fonction publique hospitalière. Eh bien, ce décret du 3 septembre 2020 précise le dispositif d'accompagnement des personnels en cas de suppression d'emplois dans la fonction publique hospitalière, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans les hôpitaux. Les mesures énoncées concernent à la fois les fonctionnaires et les contractuels recrutés pour une durée indéterminée, les CDI. Et même les fonctionnaires. Le texte définit les conditions permettant de mobiliser des dispositifs destinés à accompagner les fonctionnaires dont l'emploi est supprimé vers un nouvel emploi dans la fonction publique ou vers le secteur privé. Le décret indique également des modalités de mise en œuvre des dispositifs ayant trait à l'accompagnement personnalisé. D'accord? Ainsi, ce décret passe en revue les dispositions relatives à l'accompagnement et à l'accès prioritaire des actions de formation. Hein, son article 5 à 6, eh bien, tout fonctionnaire dont l'emploi est supprimé doit bénéficier, sur décision de son établissement d'emploi, d'un accès prioritaire aux actions de formation nécessaires à la mise en œuvre du projet professionnel. Il y a les dispositions relatives au congé de transition professionnelle. Il y a toutes les dispositions entrent en vigueur le 5 septembre 2020 et rentrent en vigueur le 5 septembre 2020, depuis le 5 septembre. Alors, tous ceux qui travaillent dans la fonction publique hospitalière, si jamais ils ont un souci dans la fin de la suppression de leur CDI, la fin de leur emploi, la transformation, la suppression d'emploi, etc., eh bien, sachez que l'État encadre les suppressions d'emploi dans la fonction publique hospitalière. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Conseil et démaillage de Radio Arc-en-Ciel est là pour vous apporter des explications. Alors, nous allons enchaîner maintenant, non plus dans le contrat de la fonction publique hospitalière, mais dans un contrat, dans les contrats CDI, CESU, un contrat qui nécessite des précautions, CDI, CESU. Alors, il y a une auditrice qui avait demandé un éclairage technique en ce qui concerne les CDD, CESU. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que mon patron a le droit de me mettre en CESU si je suis en contrat de droit commun, etc. Alors, CDD CESU ou CDI CESU. CESU, c'est chèque emploi universel. Hein? Alors, quelle est la différence? Le CDI, contrat de travail de durée indéterminée, engage l'employeur et salarié CESU pour une durée illimitée et sa rupture ne peut avoir lieu que si un des deux signataires ou les deux le souhaitent, par exemple, vers une démission ou un licenciement. Le CDDCU est un contrat CESU, pardon, le CDDCU, oh là là, CESU, vous connaissez quoi, il est la plupart des gens, ils travaillent en chèque CESU, donc ils appellent ça chèque CESU, hein, est un contrat CESU à durée déterminée dans le temps. Il est rompu à la date prévue dans le contrat. Pour compenser ce désavantage pour le salarié CESU, il est prévu une prime de fin de contrat de 10%. Le CDD CESU peut être de date à date ou bien à terme incertain, c'est-à-dire que la fin de ce contrat sera déclenchée par un événement dont la date n'est pas connue au moment de la signature du CDD. D'accord? Pour un salarié à domicile, dans quel cas peut-on conclure un CDD CESU? Le CDD CESU ne peut se justifier que dans quatre cas pour une aide à domicile, c'est-à-dire embauche d'un salarié CDD CESU en cas de remplacement d'un salarié en titre, embauche d'un CDD CESU en cas de surcroît d'activité, c'est-à-dire si elle a un bon peu de travail, donc en surcroît d'activité, un remplacement d'un salarié CESU dont le départ définitif précède la suspension du poste, et puis en attente de l'entrée au service d'un salarié recruté par un contrat de travail à durée indéterminée. Alors, cette personne, je lui ai demandé, cette auditrice, de me transférer par mail son contrat de travail pour savoir dans quel cadre elle rentre. Parce que moi, je ne peux pas donner des renseignements sur la rupture ou bien l'intention de son employeur de lui mettre en CDI, CDD, CDU ou CESU, parce que je ne connais pas le contenu de son contrat. Donc, dès lors que j'aurai pris connaissance de son contrat, je vais lui dire si elle rentre dans ce cadre de CESU ou alors si son patron a le droit de lui mettre en contrat CESU. Parce qu'on ne peut pas prendre quelqu'un qui travaille un contrat de droit commun, qui ont des conditions beaucoup plus importantes ou du moins des avantages beaucoup plus importants que dans un CESU, de le transformer en CESU. Ça, c'est pour moi, ça me reste, franchement, je reste dubitative. Et donc, j'ai demandé à ce que ce contrat me soit transmis et que je regarde ce qui se passe justement pour cette affaire-là. Elle parle de remboursement par la Sécu. Je suppose que c'est par rapport au Covid et cette histoire de remboursement par la CESU des gens qui n'ont pas travaillé, etc. Elle est un peu perdue. Donc, je vais l'éclairer sur ce contrat-là dès qu'elle m'aura elle m'aurait transmis par mail son contrat en question. Alors, jeudi dernier, je vous avais parlé d'une ordonnance concernant, pour simplifier la lutte contre l'habitat indigne, une ordonnance. Alors, la création d'une seule et unique police de sécurité et de la salubrité des immeubles bâtis est désormais actée. L'ordonnance, au journal officiel du 17 septembre, 1er janvier 2021, attendue depuis 2 ans, prévue par la loi Elan. Je vais vous donner quelques petits mots sur la loi Elan. De novembre 2018, l'ordonnance de simplification des pouvoirs de police administrative relatif à la lutte contre le logement indigne est parue le 17 septembre au journal officiel. Le constat d'un éclatement de ses pouvoirs et des procédures et d'un manque certain d'efficacité. Nous reprenons pour ce qui concerne l'ordonnance pour simplifier la lutte contre l'habitat indigne. Nous allons revenir parce que nous avons un petit problème technique, ça arrive. Hein. Bon, aujourd'hui, moi-même, je perds mes papiers, je perds ma fiche, mais je m'en excuse, auditrice, auditeur, hein, je reprends pour vous. L'ordonnance vise ainsi, l'ordonnance concernant la police de sécurité et de la salubrité des immeubles bâtis. Alors, l'ordonnance vise ainsi, explique le rapport au président de la République qui l'accompagne, à l'harmoniser, simplifier les polices administratives spéciales de lutte contre l'habitat indigne, permettre aux maires de mieux traiter les situations d'urgence et favoriser l'organisation au niveau intercommunal des outils et moyens de lutte contre l'habitat indigne. Elle entrera en vigueur au 1er janvier 2021. Hein? Alors, il y a 10 procédures qui sont réunies. L'ordonnance rassemble, dans un premier temps, tous les faits générateurs des actuelles procédures de police administrative de lutte contre l'habitat indigne au sein d'une nouvelle police de la sécurité et de la salubrité des immeubles bâtis. Cette nouvelle police intègre donc 7 procédures actuellement présentes dans le Code de la santé publique et des 3 procédures du Code de la construction et de l'habitation. Le texte détermine ensuite l'autorité compétente pour déclencher la procédure en fonction du fait générateur, c'est-à-dire les préfets pour les dangers pour la santé des personnes et les maires et présidents de PCI pour la sécurité des personnes. Il pose l'obligation pour toute personne de signaler à l'autorité compétente des faits dont elles auraient connaissance et susceptibles de constituer des faits générateurs de la nouvelle police de la sécurité et de la salubrité des immeubles bâtis. Alors, en ce qui concerne la rapidité d'exécution, l'ordonnance décrit ensuite précisément tout le déroulement de la procédure, étant précisé qu'une phase supplémentaire de mise en demeure n'est plus requise. L'expiration du délai fixé par l'arrêté de mise en sécurité suffit à justifier l'exécution d'office. Celle-ci ne requiert l'intervention préalable du juge que pour la démolition. Autre changement. Dorénavant, explique le rapport au président de la République, le maire pourra utiliser cette nouvelle police pour traiter les situations qui nécessitent une intervention dans la journée, alors qu'actuellement, elle est contrainte d'utiliser sa police générale sans possibilité de lancer le recouvrement des frais engagés par la commune et sans application du régime du droit des occupants. Hein? Ça, c'est une nouveauté de la circulaire concernant l'habitat indigne. Alors, eh bien, le gouvernement donne des instructions pour renforcer les sanctions et réparer par cette ordonnance. Voilà, si vous avez des questions, comme voilà, on a eu un petit peu de contretemps, je suis obligée d'activer un petit peu l'affaire. Alors, pour ce qui concerne la loi Elan que je vous avais parlé, depuis 2018, je vous parlais de cette loi Elan, hein, et je résume un petit peu ce qui change. Alors, la date d'entrée en vigueur de cette loi est déjà depuis 2018. Il y a l'encadrement des loyers. Hein. Vous savez qu'il y a eu l'encadrement des loyers par la loi Elan. Il y a eu, on parle de bail de mobilité, la possibilité d'avoir bail mobilité. La loi a créé un nouveau type de bail d'habitation, le bail mobilité, c'est-à-dire qui vise notamment les locataires en mobilité professionnelle. Il concerne la location de logements meublés, donc d'une durée de 1 à 10 mois. Vous savez bien, pour faire un bail, on ne fait pas un bail comme ça. Hein. Mais là, cette loi est venue alléger un petit peu et a créé cette bail. Ce bail mobilité. Il y a eu un problème, je veux dire, un avantage aussi en urbanisme. L'un des objectifs affichés de la réforme consiste à simplifier les règles d'urbanisme en vue d'accélérer les procédures de construction du logement dans certaines règles et sont ainsi assouplies. Donc, il y a des règles assouplies. Il y a des points sur le permis de construire, la transformation des bureaux. Dans les HLM, le logement social est également l'un des grands sujets abordés par cette loi. Hein. Ensuite, la copropriété. Hein, les copropriétés sont également concernées par la réforme, hein, qui vise à mieux adapter la réglementation en fonction de leur destination et de leur taille. Les règles de prise de décision sont notamment modifiées. Hein, elle est concernée également par cette loi. L'expulsion des squatteurs, ceux qui rentrent dans les maisons sans autorisation, là vous savez bien les squatteurs. Il y a le bail numérique, la caution, il y a aussi, ça concerne la caution, la location touristique. Voilà tout ce que concerne. En résumé, hein, j'ai résumé parce qu'il y a beaucoup d'autres choses, la loi Elan. Et donc, eh bien, de par cette loi Elan, est venue justement abonder cette ordonnance pour simplifier la lutte contre l'habitat indigne. Voilà pour ce qui est de ce petit mot sur l'habitat indigne. J'étais un petit peu interrompue. Peut-être que j'y reviendrai avec un petit condensé un peu plus clair pour vous, hein, parce que des fois, on parle de loi, le loi, le loi. Et certaines personnes n'arrivent pas à suivre, ou du moins, je parle peut-être un peu vite. Alors, pour ce qui concerne cette affaire d'habitat indigne de cette ordonnance, je reviendrai avec un petit condensé, un petit détail, je pense, jeudi prochain, et puis en souhaitant ne pas avoir de problèmes techniques, bien sûr. Ah, mes chères auditrices, auditeurs, excusez-nous pour aujourd'hui parce que Internet nous fait des siennes. Donc, on est désolé, hein. Alors, donc, congés payés. J'avais voulu dire un petit mot sur les congés payés. Tout salarié a droit à des jours de congés payés par son employeur. La durée des congés varie en fonction des droits acquis par le salarié. Les départs en congé sont soumis à l'accord de l'employeur. Les jours de congés payés peuvent être pris de manière fractionnée. Alors, comme je dis, tout salarié, comme cette personne qui m'avait fait part de son souci, elle n'a jamais eu de congé, les patrons s'en vont et puis elle doit aller quand même travailler, même si les patrons ne sont pas là, ça ne s'appelle pas des congés parce qu'elle va toujours travailler. Tout salarié a droit donc à chaque année à des droits de congé payés, quel que soit son contrat de travail, que ce soit en CDI, que ce soit en CDD ou en contrat d'intérim. Hein, son temps de travail et son ancienneté, quel que soit. Un salarié nouvellement embauché peut bénéficier de jours de congé avec l'accord de son employeur. La durée, le nombre de jours de congé payés acquis dépend du nombre de jours travaillés effectués par le salarié dans l'entreprise. Alors, je confirme que cela correspond à 30 jours ouvrables, 5 semaines pour une année complète de travail. Je reviendrai vers elle puisque c'est la même personne qui me parle de contrat CESU, de congés payés. Et voilà, donc je reviendrai vers elle pour ce qui concerne son contrat. Je ne sais pas si on a encore beaucoup de temps. Nous allons parler maintenant du partage de biens de la succession. Alors, j'ai une auditrice hein, qui m'a fait part de son intention de donner sa part dans une succession. Eh bien, oui, bien sûr, c'est possible. Le partage amiable hein, suppose en principe que tous les héritiers soient d'accord pour sortir de l'indivision. Par exemple, une personne est dans l'indivision. Une indivision, c'est quoi? Une indivision, c'est un bien, c'est une indication juridique quoi, hein, dans laquelle plusieurs personnes exercent des droits sur un bien ou une masse de biens, c'est-à-dire une indivision. Hein? Eh bien, si un héritier refuse de partager au partage, eh bien, les autres héritiers peuvent le mettre en demeure. Et de se faire représenter au partage amiable par la personne de son choix. Alors, le partage consiste à attribuer à chaque héritier des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. Et comme cette personne me demande, est-ce qu'elle a le droit de donner sa part de biens? Eh bien, oui, elle a le droit de donner sa part à son frère ou à sa sœur, la personne qu'elle a voulu, qu'elle a décidé de donner. Et par contre, quand on refuse comment je veux dire, quand on refuse dans la succession, c'est-à-dire la part, quand on refuse d'hériter, l'héritage, eh bien, on doit le faire dès le départ, parce qu'après, c'est un petit peu plus compliqué. Et pour ce qui concerne cette personne qui veut sortir de l'indivision Elle aurait dû le faire au départ, mais là, si elle veut donner sa part de bien, eh bien, elle peut le faire. Elle peut le faire à son frère. Mais il y a une procédure à suivre. Attends, je vais quand même donner un petit détail avant, hein. Donc, nous avons noté de toute façon que lors de la vente ou de partage d'un bien en indivis, je vous ai parlé d'indivision, eh bien, les héritiers qui occupent le logement à titre de résidence principale, qui concernent par exemple cette personne, ces personnes, puisqu'ils habitent dans la maison, eh bien, ils ont un droit préférentiel sur le bien. Ça, c'est une chose. Ensuite, nous avons aussi remarqué, en tout état de cause, si la personne envisage un partage, il ne faut pas brûler les étapes, il faut d'abord demander l'accord de principe, oral ou écrit, des frères et sœurs sur l'opération du partage. C'est-à-dire que, bon, ben, quand ils décident de faire quelque chose, il faudra le faire par écrit. Dans tous les cas, celui qui souhaite conserver le bien doit verser une compensation appelée soulte, hein, aux autres indivisaires. C'est-à-dire, indivisaires, c'est les autres personnes dans le bien, concernées par le bien. Ils doivent verser un monnaie à l'autre que la refuse, enfin, ils redonnent à l'autre. Une espèce de vente à l'intérieur de cette indivision, quoi. La soulte est proportionnelle à la quote-part des droits de chacun dans l'indivision. Elle est due au moment du partage et en un seul versement. Donc, il peut avoir des demandes de délai de paiement si c'est des frères et sœurs, etc. Mais là, pour ce qui concerne cette personne, elle veut donner, elle veut pas vendre, elle veut donner. Eh bien, il existe trois façons de sortir de l'indivision. Un héritier sort individuellement de l'indivision, en donnant ou en vendant sa part dans l'indivision, il doit en informer les autres indivisaires par acte d'huissier. Ces derniers ont le droit d'acquérir en priorité sa part dans l'indivision. Voilà ce qu'il a la possibilité de faire, hein. C'est assez compliqué de parler d'indivisaire, d'indivision, et surtout quand il concerne un cas précis, hein, un cas précis. Je prépare le dossier de cette personne, hein. Puisque c'est assez compliqué. Parce qu'un indivisaire, c'est celui qui est dans l'indivision. Peut céder sa part, indivise. Hein, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit dans le cas d'un legs ou d'une donation. Donc, vous voyez bien que ça fait un moment que je suis sur ce dossier-là, puisque la personne, elle n'a pas refusé le droit de succession. Et maintenant, elle est en plein dedans. Mais par contre, comme il y a beaucoup de biens, il s'agit de plusieurs biens, et que là, pour ce qui concerne la donation, concerne un bien, donc c'est très compliqué. Je suis sur l'affaire, ne vous inquiétez pas, je dis ça pour la personne qui est concernée, qui m'a laissé un dossier. Je suis dessus depuis quelques jours déjà. Et puis, ben, c'est pourquoi je m'en excuse auprès d'autres personnes qui m'ont donné des dossiers. Je mets un là-bas, je recommence sur l'autre, je prends les plusieurs gens. Et voilà pour ce qui concerne la sortie d'indivision et la possibilité de donner à son frère ou à ses sœurs ou à ses frères la part. Mais il y a une procédure à suivre. Donc, je suis en train d'étudier un petit peu tout ça. Et à ce moment-là, je reviens vers vous, bien sûr par mail, hein, puisque je ne reçois plus ou presque pas avec la crise sanitaire, là, donc, voilà, depuis la crise Covid. Et donc, je reviendrai vers vous pour ce qui concerne ce dossier. Bon, oui, alors, auditrice, auditeur, pour aujourd'hui, je m'en excuse franchement avec un grand sourire et un clin d'œil que je vous fais à tous. Je suis désolée, Internet nous a fait des siennes. Alors donc, je voulais vous dire simplement que je viens 2 petits mots avant de vous dire au revoir, hein. Les avantages juridiques. Quelqu'un qui pose la question, est-ce qu'il peut faire une assurance avec la banque, notamment une banque sur la place, je ne vais pas donner le nom, qui met à disposition des juristes pour orienter, répondre à des questions juridiques et aussi accompagner avec des avocats, etc. Alors, je voulais juste dire qu'il faut être très vigilant, faire très attention. Bien sûr, c'est très bien d'avoir une protection juridique et payer une assurance. Mais il faut savoir aussi que si vous avez cette assurance-là, il y a un petit couac, un petit souci lorsque vous avez une aide juridique gratuite, hein, l'aide juridictionnelle. Alors, donc, je reviendrai puisque je n'ai pas le temps là, hein, mais je vous dis tout de suite les avantages. Et l'open space, c'est quoi? L'open space, vous devez avoir porté le masque. Alors, ça veut dire un plateau ouvert. Un espace de travail collectif où les bureaux sont installés sur un plateau unique et ne sont pas séparés par des cloisons, bureaux et cloisons. C'est donc des bureaux ouverts. En conséquence, les personnes se voient et s'entendent à travailler entre elles. Et là, on est obligé d'apporter des masques. Alors, ça s'appelle un open space. C'est ça que les gens. Pourquoi ils parlent anglais? Ben oui, ben on est obligé d'avancer un petit peu le progrès. Voilà, auditrices, auditeurs, aujourd'hui, ça n'a pas été super parce que nous avons eu des problèmes techniques et moi-même, dans mes fiches, eh bien, je vous dis à jeudi prochain, je serai plus au top. Et je vous souhaite bon courage à tous et bonne écoute de Radio Arc-en-Ciel. Conseil des Mayas, je reviens vers vous. Jeudi prochain. Merci. Au revoir.